Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée au cinéma documentaire avec tout d'abord les dernières sorties en matière de documentaire de nos éditeurs préférés, à savoir Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson édité par Carlotta Film, ainsi que Les âmes perdues de Stéphane Malter et Garance Lequen, disponibles chez Blackout. Ensuite, nous évoquerons l'ouvrage Dominique Marché, Le temps du regard, signé Quentin Mével et Stratis Vouyoukas, paru chez Playlist Society. Enfin, nous parlerons longuement du métier de documentariste en compagnie d'Éric Baudoulet-Sosso, réalisateur entre autres de Jean-Bart Sambène l'Insoumis et d'Olivier Félibiolet, metteur en scène récemment de Le Gars, des Calouins, deux documentaristes donc qui seront au micro de Culture Prohibée. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier et Benjamin Fogel pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés pour causer documentaire dans ce studio, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Autre énergumène venu nous parler documentaire, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Gégé et bonjour à toutes.
Los Angeles Play Itself, un film de 2003 de Tom Anderson, débarque en Blu-ray et DVD chez Carlotta Film. Mais grâce à cet éditeur, les spectateurs français vont enfin pouvoir découvrir le travail de ce cinéaste quand même assez expérimental et surtout méconnu, à savoir Tom Anderson. Alors, Tom Anderson, c'est un enseignant, il est critique de cinéma, il est américain. Et il est révélé par un film qui s'appelle Edward Muay Bridge, Zoopraxographeur, en 1975. Un film qui n'est pas arrivé, moi, jusque devant mes mirettes, hein, que j'aimerais beaucoup voir, du coup. Et en 2003, cet enseignant signer... Alors, il habite pas Los Angeles, mais il y a vécu longtemps. d'où sa connaissance du sujet assez, assez incroyable. Et en 2003, il signe donc ce passionnant essai qui s'appelle « Los Angeles Plays Itself ». Alors c'est un documentaire totalement dingue puisqu'il compile plus de 200 extraits de films en lien avec Los Angeles. Ça va d'Assurance sur la mort de Billy Wilder à Aller confidentiel de Curtis Hanson en passant par le Blade Runner de Ridley Scott. Tout y passe, mais alors même des films très, très, très obscurs. Hein. Il faut vraiment avoir une connaissance empirique du cinéma pour pouvoir pondre un tel film. Et Tom Anderson, en fait, analyse chacune des séquences et il compose aussi bien, alors, comment dire, une sorte d'analyse du mythe de la ville Los Angeles, aussi bien dans sa représentation que dans la réalité. Et puis, il se livre en même temps à un exercice critique sur toute une partie de l'histoire du cinéma, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que si on peut parler de toute l'histoire du cinéma, rien qu'en parlant des films tournés à Los Angeles, donc il y a le nouvel Hollywood, mais aussi le très vieil Hollywood, il y a des blockbusters, et c'est assez intéressant parce qu'on découvre un réalisateur, donc Tom Anderson, qui est à la fois un inconditionnel de cette ville, et qui est aussi quelque part parfois assez désabusé. C'est un cinéphile un peu désabusé par instant, pas toujours, hein, attention, hein. Pas cynique, hein. Il n'y a pas de cynisme dans ce film, mais il y a un petit côté désabusé comme ça. Et en fait, son dispositif, qui est incroyable, qui est d'une inventivité folle, qui était complètement, enfin, c'était complètement inédit à l'époque où il fait le film. C'est quand même un film qui dure très 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 longtemps, hein. C'est presque 3 heures, hein. Et pour moi, c'est clairement le film qui a dû influencer Franck Beauvais pour le beaucoup plus court mais passionnant ne croyez surtout pas que je hurle, ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Et pour moi, Los Angeles Plays Itself, c'est un OVNI, hein, c'est un objet filmique non identifié. C'est du cinéma expérimental, il faut le dire, et ça a été une vraie révolution dans l'histoire du documentaire. Hein, voilà. Et on est très content de voir Carlotta Film sortir ce film. Alors il s'est accompagné de Tony Longo Trilogy, hein, un court qui compile les apparitions à l'écran de l'acteur, en particulier dans 3 films, Le Prix du Pouvoir, Mulholland Drive et Le Jeu de la Vengeance. Et puis il y a un livret dans lequel Anderson refait l'histoire de Los Angeles en compagnie de l'historien Mike Davis. Maintenant, on espère juste que Carlotta Thomas va nous faire découvrir d'autres œuvres de ce documentariste, de ce cinéaste tout court d'ailleurs, parce que quand même, Los Angeles Play Itself, c'est une sacrée claque.
Oui, parce que quand même, on se dit, je vais entamer un film de 3 heures. On se dit, est-ce que je vais pouvoir le regarder d'un coup? Mais oui, on le regarde d'un coup parce que c'est passionnant de bout en bout. Enfin, c'est très touffu. Il aborde Los Angeles au cinéma sous divers aspects, comme simple décor. Puis il se termine par Los Angeles en tant que personnage du film, etc. Et à travers... Oui, il parle de cinéma, il parle de mise en scène. Il y a toute une partie passionnante sur Aller Confidential, sur la représentation... que le film fait du Los Angeles de l'époque qu'il représente, etc. Mais à travers les films, notamment, il y a aussi un long passage sur Chinatown de Roman Polanski, à travers les films aussi, il retrace l'histoire de Los Angeles, il exhume des histoires un peu sales, quoi, des histoires un peu sales, dont parle Chinatown de Polanski, où il dit que ça s'inspire de tels faits d'actualité de l'époque, etc. C'est un film passionnant de bout en bout, quoi, qui est... pour moi, le cinéma, c'est ça aussi. Ça peut être autant du divertissement de raconter une histoire que de raconter l'histoire.
Tom Anderson, comme vous l'avez dit, explore les différents visages de Los Angeles, sa représentation, sa topographie, sa symbolique, y compris son évolution, d'abord comme destination touristique, puis qui devient un monde de travail où on va chercher à devenir acteur. Il a beaucoup de narrations intéressantes, notamment sur pourquoi LA est souvent détruit par Hollywood, notamment un petit passage avec Armageddon qui détruit Paris, où il dit que c'est peut-être Hollywood qui s'en prend à la résilience de l'exception culturelle française, ou à un moment où il parle d'un film, je crois, de Truffaut à LA, où il dit « La ville est filmée telle que seul un Français pourrait le filmer ». C'est un film long, mais qui en a besoin pour explorer toute la ville, et par son montage, le fait qu'il enchaîne différents films côte à côte, vu que c'est ça, le film, c'est juste une composition de différents films, il rappelle un peu ce que peut faire Blow Up d'Arte avec Thierry Jousse, à qui on passe un petit coucou, ou ce qu'on retrouve notamment aujourd'hui sur YouTube, sur le fait que quand on veut parler d'un film ou de plusieurs films, on passe à travers le montage. Le film évoque aussi la question sociale, qui garde un peu vers la fin, avant de parler de la ville comme personnage, mais c'est quelque chose qui parcourt le film, notamment le tabassage de personnes hispaniques à mon histoire de la ville. Et au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lieu qui a une histoire, mais on a aussi un cinéma qui raconte cette histoire et une histoire qui dit autre chose de la ville en elle-même. C'est un film super beau et profondément intéressant. On a en fait l'impression de lire un film qui parle de cinéma et en même temps qui parle de géographie.
Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est Los Angeles Play Itself de Tom Andersen. C'est disponible chez Carlotta Film. C'est un summum du documentaire qu'on vous encourage à voir, parce qu'en plus, vous allez voir comment on peut faire de la mise en scène à partir des images des autres. C'est pas donné à tout le monde. Donc bravo Tom Andersen. Écoutez Culture Prohibée, spécial documentaire. Très différent, le prochain documentaire dont on va parler, Les âmes perdues. Les âmes perdues, qui est un film documentaire franco-allemand réalisé par Garance Lequen et Stéphane Malter, qui est sorti donc chez Blackout. Alors, ça raconte une histoire très particulière, puisqu'on part d'un photographe légiste qui s'appelle, le pseudonyme est César, qui est complètement grimé, déguisé pour pas qu'on le reconnaisse, qui a déserté la police militaire de Damas, qui a quitté la Syrie et qui a ramené plusieurs dizaines de milliers de photographies de suppliciés qu'il a secrètement copiées la nuit dans le poste de police sur des clés USB pour pouvoir dire au monde voilà ce qui se passe dans le pays de Bachar el-Assad, voilà ce qui se passe en Syrie. Et il vient, à un moment on l'entend, et d'ailleurs il va dans le documentaire, à un moment il va devant le Parlement européen, il dit j'en ai marre, là je suis à Bruxelles, j'en ai marre. En gros, c'est ce qu'il dit, hein. je simplifie, mais j'en ai marre, j'étais venu en Europe pour vous faire voir ce qui se passe, faites quelque chose, quoi. Et à un moment, il n'en peut plus, quoi. Il dit, je suis venu vous faire voir. Parce que le mec, il perd tout quand il fait ça. Hein. Il perd toute sa vie, toute sa famille, tous ses amis. Enfin, voilà. Le type devient un paria, en fait. Et on part de là, et on va dérouler, en fait, le combat de différentes familles qui sont des familles binationales. Qu'elle soit en Espagne, qu'elle soit en France, par exemple. En France, je trouve que l'histoire de cette famille qui se bat avec l'avocate Clémence Bechtart pour que les autorités françaises s'occupent du frère et du fils d'un ingénieur franco-syrien qui s'appelle Obeida Dabag, c'est un moment qui fout les foies, quoi. Ça fout les boules, quoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'au nom de la réelle politique, on ne s'occupe pas, en fait, de cette affaire. En tout cas, la famille, elle, pour elle, on ne s'en occupe pas. On voit aussi qu'en Espagne, on a du mal à prendre des décisions et qu'on préfère baisser les bras, que la justice préfère baisser les bras. Heureusement, comme souvent d'ailleurs, hein, le sursaut va venir de l'Allemagne. Et puis après de la France, hein, qui va prendre une décision courageuse. Mais l'Allemagne va condamner d'abord, et puis après la France va lancer aussi des mandats d'arrêt. Mais c'est un long travail, on voit que c'est un long travail, épuisant pour les familles, pour les avocats. C'est un documentaire bouleversant, sans pathos, hein, attention, avec des vrais choix de mise en scène, c'est passionnant. Et en fait, ce que ça montre... Ce qui est incroyable, hein, c'est en fin de compte la faiblesse de nos institutions internationales, en tout cas telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Ce qu'on voit par rapport à l'Ukraine, par exemple, aujourd'hui, mais là, ce qu'on voit par rapport à la Syrie. Parce qu'il y a plein de... aussi bien dans les hommes politiques en France, en Espagne, en Allemagne, et plein aussi de juges, plein aussi, qui auraient le courage d'y aller, mais qui se heurtent à des montagnes, en fait. C'est très, très complexe. Ce qu'on voit, c'est que c'est très, très complexe. Il faut peut-être retravailler la question du droit international, il faut peut-être retravailler la question des droits de l'homme. Mais en tout cas, ce film pose beaucoup, beaucoup de questions. Et il est passionnant. J'ai envie de dire que, Garance Lequen et Stéphane Malter prennent un peu s'inscrivent un peu dans le sillon d'un Ritipan qui démontrait les atrocités commises par Pol Pot jusqu'à devenir un véritable immense cinéaste, jusqu'à utiliser la stop motion pour raconter les méfaits des Khmers Rouges et tout ça. Bon, quelque chose de très fort. Alors, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais c'est quand même un documentaire très puissant, très fort. Et les deux réalisateurs, là, ils signent en fait un film monde, parce que ça ne concerne pas la France en particulier, ça concerne plusieurs pays. Et qui démontre la cruauté du régime syrien et l'incapacité presque systémique de l'Occident à pouvoir réagir au nom donc de cette sacro-sainte réelle politique. Et puis aussi, ce qu'on disait à l'instant, parce que les institutions internationales ont des modes de fonctionnement avec droit de veto et tout ça de certains pays membres qui, aujourd'hui, ne permettent pas, parce qu'il faudrait que ces institutions internationales soient constituées de démocraties. Et en fait, il n'y a pas que des démocraties, il y a des régimes autoritaires aussi dans ces institutions internationales. Et on voit que se dessine, c'est passionnant aussi dans le documentaire, une internationale des pays autoritaires qui vient contre une internationale des pays démocratiques, hein, comme la France, l'Espagne, voilà, qui sont des pays démocratiques, France, Espagne, Allemagne, voilà, et qui se heurte à un mur, en fait. Et face à l'humanité, à la dignité des gens là, qui sont concernés par ces problématiques, on ne peut qu'être bouleversé. Donc pour moi, c'est vraiment un grand documentaire. C'est ce que doit être un documentaire. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de violon. On n'essaye pas de nous faire pleurer dans les chaumières. Non, on nous montre la vérité. Par contre, ce n'est pas à mettre devant tous les yeux, parce que les photos des suppliciés, c'est assez terrible quand même. Imaginez l'état de santé mentale. Parce que c'est un tout petit groupe de personnes qui bossent là-dessus, hein. De ces gens qui bossent en regardant ces photos jour et nuit pour essayer de retrouver des liens anthropomorphiques avec des disparus. Ah, c'est costaud quand même, hein. Il faut y aller, hein. Il faut avoir le moral, hein. Voilà. Donc c'est sorti chez Blackout, ça s'appelle Les âmes perdues, et pour moi c'est vraiment un grand documentaire.
C'est sûr que c'est un documentaire qui marque, hein. Mais il y a aussi ce que montre aussi le documentaire, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que aussi les gens qui sont concernés, qui cherchent à connaître la vérité sur leurs proches, ils sont pas à l'abri, quoi. Même s'ils sont à l'étranger, ils sont pas à l'abri. Ils ont peur aussi. Et il y a aussi le fait que ces gens qui sont emprisonnés, torturés et assassinés, hein, finalement. C'est que ce sont des arrestations arbitraires. Comme ce père et son fils, que cette famille franco-syrienne recherche, ont été arrêtés parce qu'un militaire voulait prendre tout simplement leur logement. Voilà. C'est un documentaire terrible. Et il y a des témoignages, des gens qui témoignent en mimant les choses, etc. Qui revivent les choses. On les voit traumatisés, mais c'est terrible. Ce film est terrible.
Les âmes perdues de Stéphane Malter et Garance Lequen est donc disponible chez Blackout. Et on va rester avec
un livre cette fois-ci dans le monde du documentaire, avec un livre qui s'appelle Dominique Marché, Le temps du regard, un livre de Quentin Mével et Stratis Vouyoukas, un livre paru chez Playlist Society, un livre qui s'inscrit dans cette collection Phase B qui est une série d'ouvrages avec des entretiens tous plus passionnants les uns que les autres. Dominique Marché n'est pas le plus connu des cinéastes français, c'est pour ça qu'il faut souligner l'initiative positive de cet ouvrage. Hein. Il a été critique de cinéma pour Les Inrocks, il a fait des études de philosophie, mais il est surtout devenu réalisateur en 2003 avec Lens échappé, qui était un court-métrage consacré donc à un poète qui s'appelle Lens, et c'était inspiré d'une nouvelle de Jörg Büchner. Et en fait, après, dans toute sa carrière, dès ce premier film, hein, il va commencer à travailler sur le paysage, sur le paysage et les réflexions qu'il va en tirer, mais également les liens avec le paysage en tant qu'élément sociétal, en tant même qu'élément politique et poétique. Alors, je sais, ça paraît assez abstrait comme ça, il faut voir ces films hein, pour mieux comprendre. Il y a eu par exemple Le Temps des Grâces, qui a été sélectionné au Festival de Locarno, qui est sorti sur les écrans en 2010. Là, il travaille, c'est le début d'un travail sur la ruralité, hein, et les paysages d'aujourd'hui dans la ruralité. Et il y a un forum qui est organisé avec l'écrivain Pierre Bourgogneau, des agriculteurs, des agronomes, des économistes, des politiques, des paysagistes. Et tous, en fait, échangent sur le bilan en fait, des effets de la modernisation agricole et puis en quoi la mondialisation économique, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin, en quoi la mondialisation qui a été au centre de beaucoup de luttes, y compris dans le monde paysan via la Confédération paysanne, comment cette mondialisation a un effet dévastateur sur le paysage. Et puis, il y a eu Nul homme n'est une île, qui est sorti en 2018 en France, en Suisse, en Italie, qui a été le grand prix du jury au festival de Belfort, et qui, là encore, nous fait découvrir des activités en lien avec la terre, en particulier, par exemple, des agrumiculteurs siciliens de la coopérative des Galline Felici. On voit aussi un architecte au travail, mais des artisans. On voit aussi le travail de politiciens en lien avec donc l'environnement, le paysage, les impacts que ça peut avoir. Tout cela en lien avec en fait une fresque peinte en 1338 par Ambroglio Lorenzetti à Sienne et qui s'appelle La fresque du bon gouvernement. Et en lien avec tout cela, le réalisateur Dominique Marché va développer donc un film assez passionnant. Puis en 2023, il y a La Rivière. Alors pour voir ces films, vous pouvez aller sur filmdocumentaire.fr. Il y a tous les liens. Certains sont disponibles en streaming, d'autres sont récents. Donc on peut, pour les voir, il faut trouver des festivals de documentaires, des salles à réessayer, voilà. Et La Rivière est d'ailleurs abordé dans le livre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre dans le livre qu'à la base, ça devait être une fiction et que Dominique Marché a quand même fait un documentaire. Voilà, alors si vous voulez savoir pourquoi, entre autres, vous achetez ce livre, donc, qui s'appelle Dominique Marché, Le temps du regard. Donc, c'est un livre de Quentin Mével et Stratis Vouyoukas. Alors on est pris par le temps, je ne peux pas trop développer. C'est paru chez Playlist Society, c'est disponible dans la collection Phase B et on vous le recommande chaudement. Et nous allons maintenant écouter deux documentaristes qui ont signé pour l'un, donc Éric Baudoulet-Sosso, Jean Barsamben, L'Insoumis, et pour l'autre, Olivier Félibiolet, Le gars des Calouins. Le gars des Calouins, c'est son dernier film qui tourne actuellement dans les festivals, qui tourne dans les salles de cinéma à Rennes. C'est aussi jeter un œil sur les programmations pas loin de chez vous. Vous pourrez découvrir ce documentaire. Et souvent, Olivier Félibiolet, d'ailleurs, accompagne les projections, donc vous pourrez échanger plonger avec lui. Et c'est justement à l'occasion d'une projection à la salle Saint-Gobain de Tourotte, dans le cadre du ciné-club dont votre serviteur assure la programmation, hein, donc à l'espace culturel Saint-Gobain de la ville de Tourotte, que nous avons fait venir donc, comment dire, Olivier Philippe Biollet, le metteur en scène du Gars des Calouins, et celui qui a été son directeur photo pour ce film, également réalisateur de documentaires, donc Éric Baudoulet-Sosseau. Donc tout de suite, une petite table ronde avec Olivier Philippe Biollet et Éric Baudoulet-Sosseau, qui sont au micro de Culture Prohibée.
À l'origine, moi, c'est plutôt de faire de la fiction, voilà, dans les films. Et je me retrouve à faire du documentaire un peu par accident. Je tourne mon premier film, un court-métrage. Donc moi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé en 2016, les tournages. Et en 2016, au retour du tournage de mon premier film de fiction, L'ère d'un oubli, je raccompagne Marina Vladi chez elle. On a une discussion en voiture sur des recherches que je fais sur un de mes cousins qui a été déporté pendant la guerre sous le statut des prisonniers politiques. Et quand je lui raconte cette histoire, Marina me dit « Écoute, c'est formidable, Olivier, fais-en un film. » Et j'ai commencé à faire des recherches sur les NN. Alors bien évidemment, il y a le film d'Alain René, Nuit et brouillard, mais qui ne concerne pas les NN. Et c'est là où j'ai décidé de faire un premier film documentaire. Et aujourd'hui, ça me paraît... je ne me vois pas ne pas faire de film documentaire. J'adore ça. Donc aujourd'hui, ça serait de faire les deux. D'ailleurs, je fais même plus de films documentaires à l'heure actuelle que de films de fiction.
Et la différence, quand on fait... la différence principale entre faire une fiction et faire un film documentaire, parce qu'il y a des choses qui peuvent paraître par aberrant pour le public, quand on sait que pour monter des dossiers de financement, il faut écrire un scénario, par exemple, pour un documentaire, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu rigoler, parce qu'on sait tous que le scénario, il s'écrit au montage, en fait.
C'est ça, tout à fait. C'est même perturbant, parce que ça veut dire qu'on écrit des dialogues, le film est écrit, alors qu'on n'a même pas commencé à tourner d'interviews, de séquences. Une des différences sur les deux, c'est peut-être dans le travail d'écriture et dans le travail de recherche, mais peut-être qu'on va en parler après.
Moi, je vais me tourner vers Éric Baudoulet-Sosseau, qui a réalisé, alors entre autres, Jean Barre sans Ben, l'Insoumis, qui est un documentaire donc sur un réalisateur, mais il va nous en dire plus, qu'on avait en plus, nous, eu le plaisir de voir, puisqu'on l'avait diffusé dans le cadre d'une projection publique à Tourotte, documentaire qui a fait le tour des festivals, qui a été, comment dire... Un des premiers, si ce n'est le premier, je crois, peut-être en France, à être consacré à Ousmane Sembène, peut-être. Je ne veux pas dire de bêtises, donc tu vas me répondre. Et déjà, pourquoi, comment tu t'es retrouvé documentariste et pourquoi ce sujet ?
Alors, documentariste, c'était pas une vocation. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, moi, d'un point de vue professionnel, je viens du milieu du reportage. C'est-à-dire que j'ai travaillé longtemps comme JRI, une dizaine d'années, pour RFO, donc Radio France Outre-mer à l'époque. Et ça m'a permis de découvrir des tas de choses concernant les DOM et les TOM, que ce soit à Paris ou ensuite sur place, en déplacement. Et puis, il y a eu aussi un moment où, après ma dizaine d'années comme pigiste à RFO, j'ai commencé à travailler comme réalisateur et sur des films de commande, entre autres, pour la Cité de la Musique. Donc, des films de commande pour la Cité de la Musique, on était à mi-chemin entre le reportage et le doc, déjà. Et puis, la motivation de départ, donc je reviens du reportage, mais la motivation de départ, je pense que c'est aussi, ça remonte à quand j'étais gamin, quand notre mère, mon frère et moi, nous emmenaient voir les conférences Connaissances du Monde, qui existent toujours. C'est-à-dire que là, il y avait un conférencier, plus rarement une conférencière, c'est souvent un conférencier à l'époque, qui projetait, en fait, c'est un montage de ses films, ce qu'il avait tourné souvent en 16 mm à l'autre bout du monde. Et il commentait en direct. Au milieu, il y avait l'entracte et il dédicaçait son bouquin, quoi. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours vu l'image comme un moyen de me déplacer, d'aller rencontrer l'autre et de voyager, quoi. Voilà. Donc, ça a peut-être débouché comme ça sur le documentaire. Alors, Sembène Ousmane, ça remonte en fait à l'année de sa mort, puisqu'il est mort en 2007. Il y a eu un hommage assez conséquent. Je pense même très honnêtement que c'est le meilleur hommage qui ait pu être fait à travers le monde à Sembène Ousmane, parce qu'il y a eu un plateau vraiment énorme. Et puis, ça a été pour moi l'occasion de travailler à domicile, hein, vu que je bossais déjà sur le Festival du film d'Amiens avec des jeunes que j'encadrais, Option
parce
Cinéma.
Que c'est etc. le festival du film d'Amiens qui avait
rendu cet hommage, ouais. En faisant venir énormément de témoins, de gens qui avaient connu Sam Ben, qui avaient travaillé avec Sam Ben, etc. Et y compris des Afro-Américains. Et ce qui fait que, à domicile, j'ai eu l'occasion de commencer à enregistrer des témoignages autour de Sam Ben, mais sans avoir à ce moment-là l'idée, l'idée aboutie d'en faire un documentaire. Quoi. Je travaillais plus dans une logique mémorielle, en fait. Et puis, petit à petit, voilà, ça s'est étoffé, ça a pris beaucoup de temps. Et ça me permet de revenir sur ce que tu disais concernant le documentaire sur Sam Ben. C'était pas le premier. On a peut-être fait partie des premiers à bosser sur le sujet, mais ça a pris 10 ans avant que ça débouche sur un film, un documentaire de 85 minutes. Entre-temps, il y en a d'autres qui ont fait leur projet sur Sam Ben, qui ont sorti leur documentaire. Voilà, quoi.
D'accord. Alors, tous les deux, là, si vous êtes réunis, c'est aussi parce que... un film vous réunit, parce que là, vous avez travaillé ensemble, sur Le Gars des Calouins, puisque Olivier Félix Biollet, donc tu es le réalisateur du Gars des Calouins, et tu as travaillé sur ce film avec Eric Baudoulet-Sosso, donc qui est sur ce film ton chef-op.
Oui, tout à fait, il y a deux chefs-op sur le film. Alors, on va dire, le premier chef-op qui est arrivé, c'est Sylvain Rodriguez, avec qui je travaille sur d'autres films. Et Sylvain n'étant pas disponible à une période parce qu'il tournait une série pour France Télévisions, Eric est venu en remplacement. Mais avec Eric, on avait déjà tourné d'autres images sur d'autres projets, notamment sur des films institutionnels.
D'accord. Parce qu'il y a une différence entre vous deux, c'est que toi, tu as une boîte de production, Eric.
Oui, oui.
Qui s'appelle BNDB Prod. Alors pourquoi, comment, quand est-ce que tu l'as montée, pourquoi? Et puis, quel est le quotidien d'un producteur, d'un documentariste producteur comme toi?
Moi, j'ai monté ma petite structure de production, BNDB Production, en 2003, justement. Suite à une commande de la Cité de la Musique. Bon, c'est-à-dire que j'avais un film à faire pour la Cité de la Musique et le temps commençait à se resserrer avant qu'on commence le tournage. Et puis, m'est venue l'idée de monter ma petite boîte, puisque j'avais été pigiste pendant longtemps. Il fallait aussi que je puisse assurer la suite, ma survie, parce que pour moi, il était hors de question d'être salarié quelque part. Bon. Et donc, j'ai décidé de monter un peu au culot cette boîte, en expliquant à la Société de la Musique qu'ils allaient travailler avec une boîte de prod qui n'existait pas encore. Bon, c'est passé. Et puis voilà, c'est parti de là. Donc ça m'a permis aussi, cette boîte me permet aussi de pouvoir répondre à des travaux de commande, d'initier aussi moi-même des projets qui voient le jour ou pas, parce que c'est toujours très compliqué. Hein, de toute façon, on en parlera peut-être après. Et ce qui fait que c'est une espèce de garantie d'une certaine indépendance et aussi d'une logique de survie à mon niveau, puisque bon, il y a différentes façons de faire des films ou d'en vivre. Mais il y a un truc important aussi, c'est de, par exemple, préserver son statut d'intermittent, si on en a un, bon, qui est quand même une spécificité française, qui permet autant en fiction qu'en documentaire aussi de tenir un peu plus le coup, puisqu'il y a un soutien de l'État, on va dire, indirectement. Quoi.
Alors, Olivier Félix Biollet, toi, c'est différent, parce que toi, comment tu fais pour monter un film? Toi qui n'as pas de boîte de prod, alors pour Le Gars des Calouins, je crois que tu es passé par quelque chose d'associatif, mais comment tu as fait? Comment tu es arrivé? Parce qu'Éric nous a raconté un peu son parcours, mais après tout, comment toi tu es devenu réalisateur? Puis comment tu montes tes films, quoi? Parce que c'est tout un...
Alors, les trois premiers documentaires que j'ai tournés, donc le premier fait 52 minutes, c'est avec France Télévisions. Le deuxième, c'est un court-métrage qui a été produit aussi par une petite boîte de prod. Le troisième qui fait 85 minutes, pareil, il y a une boîte de prod derrière. Et le dernier, Le Gars des Calouins, on est arrivé sur un format 46 minutes, je l'ai produit. Voilà, effectivement avec une association, mon association, les trois chaînes. Sur le premier, c'était assez simple en termes de production. Enfin, assez simple. Je suis allé au culot, en fait, c'était mon premier film documentaire. C'est-à-dire que je suis arrivé avec le projet, directement, j'étais voir le directeur des programmes de France Télévisions. Je lui ai proposé le projet, il m'a dit « c'est génial, on était en 2016, on allait prévoir les commémorations de la Première Guerre mondiale. » Il m'a dit « écoutez, c'est pas dans ce qu'on va chercher, c'est génial, mais c'est pas ce qu'on va chercher. » Et là, je lui ai dit « écoutez, je vais faire une maquette, de toute façon, ce film, je vais le tourner, je vais faire une maquette et je viens vous la montrer. Vous êtes OK ?» Il m'a dit « bah oui. » C'était difficile de dire non. Là, j'étais chercher de l'argent auprès d'une entreprise qui nous a permis de financer cette maquette. On est revenu, donc j'avais une productrice avec moi, Virginie Verrier, qui vient avec Vigo Film. Et là, on va près de France Télévisions, directeur des programmes, et on lui montre. Et là, il se tourne vers nous, il nous dit « OK, c'est bon, on vous suit ». Voilà, donc là, c'est parti. Donc, il y a eu deux sociétés de production qui sont venues. En plus de Viggo Film, il y avait les Dogs du Nord. Et là, c'est parti sur une production, on va dire, classique. Après, le deuxième, en fait, c'est des rushs que je n'avais pas montés dans le premier. Voilà, c'est-à-dire que ça me tordait l'estomac d'avoir des témoignages, et notamment le témoignage de Gilbert Arny qu'on n'avait pas monté. Et je me disais, c'est quand même, il nous raconte une histoire de la résistance, il faut qu'on le monte. Donc on a monté un film, là on s'est débrouillé ben, à nouveau pour monter ce film. Le troisième, en fait, là c'est un producteur qui est venu me voir avec une histoire qui était très personnelle sur un sujet de société, puisque ça concerne les addictions, drogue, alcool, mais c'est le portrait des frères et sœurs. C'est comment on le vit, toutes ces addictions, et donc là, on a monté un film sur... il a fallu 2 ans, le temps de rencontrer tout le monde, de monter l'ensemble du projet. Le financement est venu au fur et à mesure, là, il y a beaucoup d'investissements privés sur ce film, et on a fini par faire un film de 85 minutes. Pour le gars des Calouins, là, je suis parti, un peu comme Eric tout à l'heure racontait, c'est-à-dire que j'ai fait des images conservatoires en me disant « je veux garder cette mémoire, mais pas dans le but d'en faire un film ». Et en fait, c'est l'objet d'une rencontre avec Alain Aymar, qui est le grand spécialiste de la deuxième DB, que j'ai rencontré au Fort d'Ivry, quand je faisais des recherches sur des archives, qui m'a montré plein d'images. Et là, on s'est dit, c'est génial. Donc là, bah, c'est mon association qui a financé les premiers jours de tournage. Et après, on a été chercher des fonds avec mon association auprès de la région, des départements. Et il y a même un collectif d'entreprises qui est venu rajouter un peu de fonds.
Vous écoutez Éric Baudoulet-Sosso, réalisateur de Jean Bar, Sans Ben l'Insoumis, et Olivier Félibiolet, metteur en scène de Le Gars des Calouins, au micro de Culture Prohibée. Gang, ce numéro ni n'est un rappeur qui yon sama boss la. Sama boss la? La kyo ki free LZO, mouna la sama boss la. Jokol sem ben mouzoum ge filme. Soumé rap chak mouzoum ge filme. Tu mou la bal nek te djoul te likhla. Askim kounyou mei 4 mouzoum pour kill la. 4 mouzoum pour kill la. 4 mouzoum pour kill la. Gagne ay bag, gagne ay titre. Sama entraîneur fil la. Jokol sem ben mouzoum ge filme. Soumé rap chak mouzoum ge filme. Tu mou la bal nek te djoul te likhla. Askim kounyou mei 4 mouzoum pour kill la. 4 mesures pour kill, 4 mesures pour kill, gagne ay bag, gagne ay titre, ça m'a entraîné de fil, Jackson.
Pour en venir à tes documentaires, alors il y a beaucoup de... Moi, j'ai pu en voir quelques-uns parce que tu m'as permis de les voir. Et c'est des documentaires qui font pas mal appel à des images d'archives, tout ça. Alors ça coûte quand même très cher.
Ouais.
Comment on fait ? Je suppose qu'il y a de la débrouille aussi là pour.
Ouais, il y a de la débrouille. Alors sur le premier, comme derrière on avait une bonne production, on avait France Télévisions, voilà, on avait la région, on avait des moyens. Donc bah là, on achète les images d'archives, on les avait achetées à l'INA, au ministère des Armées, dans les prix ordinaires que vendent le ministère des Armées et l'INA. Et le dernier, pour citer le dernier, par exemple le gars des Calouins. Quand je me dis bah tiens ça serait génial de faire un film documentaire sur cette histoire, sur ce personnage, sur Désiré Le Fauconnier qui s'engage à 17 ans au sein de la 2e DB, je trouve beaucoup d'images. Et quand je suis au Fort d'Ivry et que je leur dis bah voilà j'aimerais bien faire un documentaire, ils m'envoient un devis. Et le devis c'est 3 700 € hors taxes par minute, les images d'archives. Donc là, moi, je pars sans budget. Donc je dis, bah, c'est pas possible. Et là, comme je tombe face à des gens qui sont des passionnés et qui adorent mon projet, ils me disent, écoute, si tu fais un projet pédagogique, par contre, on te fait juste payer des frais de gestion. Et au total, à la place d'avoir payé un peu plus entre 60 et 70 000 euros d'images d'archives, parce que j'ai utilisé 21 minutes chez eux, j'ai payé 280 euros.
Ah oui.
Voilà. Donc, mais par contre, j'ai pas le droit de diffusion télé. Sinon, d'accord, il faudrait que je rachète les droits. Voilà. Et les images d'archives américaines que j'utilise, par contre, là, sont libres de droits.
D'accord. D'accord. Et il y a aussi dans ce documentaire un travail de post-prod, puisqu'il y a des cartes réalisées, des images. Alors, je sais pas quelle technique est utilisée exactement, si on peut parler d'animatronique ou des choses comme ça. Mais enfin, il y a des choses qui sont faites via des logiciels. Enfin, ça a l'air simple quand on le regarde comme ça, mais il y a un énorme travail quand même derrière.
Ouais, parce que là, bah, c'est Alexis Charles qui a réalisé ces cartes. Effectivement, c'est un gros travail parce que à la fois il faut être exact parce que les frontières sont plus les mêmes en fonction plus de la période où on est en train dont on parle. Par exemple, il y a eu un moment donné. Je lui ai dit, écoute, on va supprimer la frontière entre la France et l'Allemagne, puisqu'on était, on parlait de la libération de Strasbourg. La frontière se déplace. Donc, du coup, je lui ai dit, écoute, on supprime la frontière, on va mettre juste les noms des villes. Donc, il y a un vrai travail de recherche, et après, effectivement, d'animation, pour donner des mouvements, des effets, pour que ça soit ludique. Et surtout, ce film, Le Gars des Calouins, ce que j'ai cherché avant tout, c'est que ça soit un film pédagogique, donc qui s'adapte au plus grand nombre, qui soit accessible au plus grand nombre, et notamment les scolaires, donc public de collège et de lycée. Donc, il fallait des cartes pour qu'on puisse se repérer.
Et d'ailleurs, tous les deux, là, vous faites pas mal d'interventions avec des publics scolaires, des choses pédagogiques, des choses comme ça, pour accompagner vos travaux.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en ce qui me concerne, il y a aussi une partie du travail qui se fait sur des projets d'éducation à l'image, donc atelier cinéma avec des jeunes. Enfin, c'est aussi ce que je faisais il y a longtemps dans le cadre du festival du film avec le lycée Robert Deluzard chez Amiens, etc. Donc, je pense que tout ce qu'on fait, puisqu'on était aussi, on va peut-être aborder la logique de survie dans ce milieu, tout ce qu'on fait, en fait, nous nourrit aussi. C'est-à-dire que même dans des ateliers cinéma avec des jeunes, on a toujours des choses à apprendre, quoi. Et il y a peut-être des trucs qu'on met au point, qu'on réutilise sur le film suivant, ou celui d'après. Par exemple, il n'y a pas longtemps, moi, parce que souvent, il y a un certain, je dirais pas mépris, mais de la part des professionnels de la profession, comme disait Godard, pour les films de commande, ou dits de commande. Bon, par exemple, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai bossé sur un projet pour le Centre de la Santé de la Baie de Somme, et ça concernait Octobre Rose. Bon, bah, y a des choses que j'ai tentées avec un fond rose, des interviews qui sont plutôt des entretiens très simples. J'ai réutilisé ça il n'y a pas longtemps sur un atelier du cinéma avec des jeunes, et je pense que c'est aussi, parce que là, je maîtrise un peu mieux cette technique-là, bon, qui est simple, hein, mais bon, c'est toujours bien de rôder les choses, et ce sont des choses que j'utiliserai à nouveau sur d'autres projets documentaires, quoi, ça c'est évident. Donc voilà, il y a aussi ces allers-retours-là.
C'est ça. Moi j'adore, en fait, je m'y attendais pas, mais j'adore accompagner mes films, et notamment auprès des scolaires. Et cette trace qui reste est toujours diffusée. Voilà, toujours projeté, et je continue d'accompagner ce film, et ça c'est absolument génial, parce que notamment c'est l'histoire d'un jeune qui a 15 ans, donc bah, les jeunes se retrouvent dans cette histoire de ce gamin qui est arrêté, déporté, dont on ne va pas retrouver des traces. Et puis Eric aussi m'emmène depuis quelques années maintenant, et c'est toujours aussi passionnant, dans les maisons d'arrêt, voilà, pour projeter les films, et ce matin on y était avec Eric, oui, pour projeter Le Gars des Calouins à la maison d'arrêt d'Amiens, et là il y a un échange avec les détenus qui toujours très prenant, parce que la vision qu'ils ont de ces histoires et comment ça les sort à un moment donné de cet enfermement est passionnant.
Alors, ouais, dans ce que vient de dire Olivier, là, je voudrais juste rajouter que, effectivement, bon, la logique, quand on fait un film, si on veut trouver un financement, surtout en documentaire, c'est de partir dans une logique de 52 minutes, c'est préacheté par une télé régionale, etc. Enfin, bon, voilà. Mais on peut aussi s'en passer, un peu par la force des choses, dans notre cas. Ce qui fait qu'il n'y a pas de financement, mais peut-être qu'on a plus de liberté pour la diffusion. Ça ne résout pas nos problèmes matériels au quotidien, c'est clair. Mais en même temps, ça amène à porter aussi nous-mêmes le film auprès du ou des publics. Et c'est exactement pareil quand on a un film qui est sélectionné en festival. Il faut avoir envie d'aller rencontrer les gens. A priori, cette motivation, elle est peut-être un peu émoussée quand vous produisez, enfin vous réalisez un 52 minutes produit dans les règles de l'art avec un diffuseur, donc une télé, etc., etc., des financements. Bon, bah là, une fois que le boulot est fini, le film est diffusé, j'irai basta, quoi. Mais quand il faut l'accompagner, ben, je pense qu'on va beaucoup plus loin. Et puis, ben, ça correspond à chacun à des motivations différentes quant à l'image. Mais je reviens à cette idée des connaissances du monde au début, c'est-à-dire porter son film, le défendre devant un public et surtout rencontrer le public, quoi. C'est aussi un plaisir et un retour immense, quoi.
C'est un travail quand même considérable. Tout à l'heure, tu parlais des recherches, comment on fait. Mon premier film, c'est 2 ans et demi de recherche d'archives. Voilà, avant de tourner le film. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur 2 autres sujets de documentaire. J'en suis à la 6e année de recherche. Voilà. Donc, c'est un gros travail en amont, et c'est un travail qui n'est pas financé. Voilà. Donc, et avec, sans la certitude que le film, en plus, va déboucher, va se réaliser. D'où, ce que disait Eric, une certaine indépendance, et se dire, là, comme là j'ai fait le gars des Calouins, je sais que j'aurais pas trouvé de diffuseur et donc j'aurais pas trouvé de producteur. C'est une liberté de l'avoir fait. Alors on galère un peu à arriver à boucler des financements. Heureusement, on a des équipes, des gens qui sont sympas. Par exemple, Eric a pas été payé sur ce film là, voilà, comme les autres techniciens. Donc on arrive à, parce qu'à un moment donné, bah, y a cette passion qui nous emporte et on arrive à faire ces projets.
Ouais, et puis du coup, aussi, il faut aussi dire que. On a une chance aujourd'hui, bien sûr que c'est difficile, j'allais dire pratiquement tout le monde peut faire des films aujourd'hui, mais en même temps, ce qui est génial par rapport à avant, c'est qu'avec un matériel relativement réduit, faible coût, on peut faire des choses, quoi. Et donc nous, on vit dans la même ville. Si avec Olivier, comme avec d'autres, on peut s'envoyer, se renvoyer la balle, se donner des coups de main, plus les copains de l'équipe qui nous aident pour le montage, pour la post-prod, etc., on arrive quand même à finir les choses, quoi. Donc, c'est aussi peut-être la différence par rapport à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années où le matériel était beaucoup plus cher. Là, il est accessible. Et puis, on y va, on fait les choses. Je crois que l'important, c'est de faire les choses,
quoi. Et on est dans un métier bienveillant. Aujourd'hui, je le vois comme ça. Parce que, par exemple, là, pour le gars des Calouins, j'ai bénéficié des mêmes conditions de post-prod qu'un film ordinaire. C'est-à-dire qu'on m'a ouvert des studios gratos. Voilà, que ça soit pour le montage, que ça soit pour le mixage, pour l'étalonnage. Et voilà, c'est formidable, parce que quand on travaille avec des gens passionnés.
Après, c'était abordé. Bon, tu parlais de financement. C'est toi quand même, Eric, ton documentaire, Sans Belle l'Insoumis, c'est quand même... Alors, Olivier nous fait voyager dans l'histoire, donc lui il va à la recherche des archives, mais toi t'as voyagé, t'es allé, tu t'es déplacé, c'est quand même des budgets malgré tout assez conséquents pour du documentaire qui n'a pas forcément derrière de diffuseur. Comment on fait ça? Comment on finance? Comment on...
Il faut être débrouillard, c'est-à-dire que, enfin, ou même si on l'est pas, on est obligé de le devenir. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du film sur Sem Ben Ousmane étant un réalisateur et écrivain sénégalais, il fallait fatalement que j'aille au Sénégal. Donc, j'ai réussi à aller une première fois au Sénégal dans le cadre d'un film de commande sur le déplacement des chantiers qui avaient été mis au point sur un partenariat mairie d'Amiens et plus deux assos, dont une française et une sénégalaise. Et je suis allé faire un petit film pour la mairie d'Amiens qui rendait compte de tout cela. Bon, ça m'a permis de prolonger mon séjour, de commencer à attaquer un peu plus de recherches, faire quelques images autour de ça. Et puis, j'y suis retourné 2 ans après, j'ai complété, etc. Donc, c'est toujours un peu à la débrouille. Il y a des images qui ont été tournées au Burkina Faso. J'ai profité d'un FESPACO où j'étais détaché là-bas aussi pour faire quelques images filmées. J'en ai fait pour moi, etc., etc. Donc, à chaque fois, le cas de figure est différent. Il faut être créatif. Enfin, chaque film, dans sa fabrication, est différent. Chaque film est un prototype, quoi.
Par exemple, pour Tout pour être heureux, le documentaire que j'ai réalisé il y a 3 ans, produit par une toute petite boîte de prod. En fait, là, c'est rare, mais ça arrive encore. C'est le producteur qui a mis ses fonds propres. Non. Après, il a été chercher de l'argent parce qu'on a tourné en France, dans plein d'endroits différents. On a tourné à Reims, à Paris, à Bordeaux, mais on a tourné aussi en Espagne, en Catalogne, et on a tourné aux États-Unis. Donc voilà, à un moment donné, au fur et à mesure, en fait, il allait chercher l'argent au fur et à mesure que le film grandissait, pour arriver au final à avoir un film qui a toute sa place dans le documentaire.
Vous écoutez Éric Baudoulet-Sosso, réalisateur de Jean-Bart Sambène l'Insoumis et Olivier Félibiolet, metteur en scène de Le Gars des Calouins au micro de Culture Prohibée.
Quel est le quotidien d'un de documentariste comme vous deux? C'est quoi le quotidien? Le matin, je me réveille, je dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, sur quoi? Parce que tu disais à l'instant que, par exemple, tu avais plusieurs projets en cours, tu ne sais pas s'ils vont déboucher, tout ça. Donc le quotidien, c'est à la fois le prochain film, mais c'est le film de maintenant, c'est le film d'avant qu'on accompagne. Comment ça se passe, tout ça?
Moi, c'est ce que je découvre. Alors, je ne sais pas, Eric, sur une réalité différente, moi, c'est ce que je découvre. Alors, en plus, moi, j'ai beaucoup d'idées. Voilà. En fait, mes idées du quotidien, moi, c'est la curiosité. Voilà, j'adore ça. Pour donner un exemple très concret, en ce moment, effectivement, je suis sur la distribution du Gars des Calouins parce que je suis réalisateur, producteur, mais je m'occupe aussi de la distribution de ce film parce qu'il va falloir le faire vivre. Là, il y a 2 jours, je suis allé sur un chantier d'archéologie parce que dans mon village d'enfance, on vient de trouver une nécropole mérovingienne. Voilà, c'est un truc, c'est formidable, c'est une histoire. C'est le palais royal qui était dans ce village. Et là, on vient de faire cette découverte. Donc, je suis allé avec le maire, je lui dis, écoutez, qu'est-ce qu'on peut y aller, tourner des images conservatoires, quoi, parce que, voilà, alors je sais pas si ça va déboucher demain sur un documentaire, mais mon quotidien, c'est ça, et en même temps, je suis en train d'écrire ma série, là, de fiction historique, et je travaille toujours sur la mise en production d'un autre documentaire historique aussi, dont on a commencé à tourner des images conservatoires en France et en Angleterre, voilà, donc c'est tout ça qui se nourrit, qui grandit, et avec quand même, faut dire les choses, pas mal de projets qui ne se réalisent pas, voilà, pour finalement une petite partie qui va se réaliser.
Et toi, Eric,
Je voulais juste confirmer, en reprenant, je ne sais plus exactement comment il l'avait dit, mais c'est Orson Welles qui disait qu'il avait passé le plus clair de son temps, le plus clair de sa vie, à chercher des financements pour faire des films. Il a fait très peu de films, bon, qui sont tous excellents, hein, mais voilà, la réalité est là aussi, et ce n'est pas nouveau, quoi. Bon, et moi, comme j'ai une petite structure, une petite boîte de production, fatalement, il y a aussi l'aspect administratif, gestion, dont il faut s'occuper, parce que personne ne peut le faire à ma place. En tout cas, je n'aurais pas les moyens de payer quelqu'un. Quoi, voilà. Donc, il y a cet aspect-là, mais je rejoins Olivier sur le fait qu'il faut aussi rester ouvert, et aux aguets, c'est-à-dire qu'il y a des tas de sujets comme ça qui peuvent voir le jour, parce qu'il faut s'intéresser à tout ce qui se passe autour de nous, donc garder les écoutilles grandes ouvertes, quoi, finalement. Donc c'est une espèce de gymnastique quotidienne qui fait que on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi, en fait. Alors parfois c'est un peu fatigant, oui. Peut-être plus pour l'autre aussi qui vit ou pas avec nous, quoi. Bon, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en même temps, se rappeler aussi que personne nous a demandé de faire du cinéma. C'est nous qui avons voulu, donc voilà. À nous de se donner les moyens, quoi.
Et alors, vous l'avez dit, hein, vous accompagnez beaucoup votre travail parler des maisons d'arrêt, les salles de cinéma, les salles de classe, enfin plein de choses, hein, voilà, pour faire vivre vos films, vos productions, enfin voilà. Et est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs particulièrement sympathiques, ou pas d'ailleurs, des comme ça, de présentations de films, d'échanges, de rencontres
Très récemment, donc pour Le Gars des Calouins, qui est le portrait donc de Désiré Le Fauconnier, qui est décédé le 31 juillet, il avait 96 ans et il n'a pas pu voir le film. Voilà, il est décédé 3 semaines avant la sortie du film, mais il y avait une promesse qui avait été faite par son fils, c'était d'aller le montrer dans la maison de retraite où il vivait, où il a fini ses jours. Et on était dans cette maison de retraite il y a 15 jours pour montrer le film, et grand moment d'émotion, j'ai encore des frissons quand j'y pense, c'est un moment dans le film, il y a le chant des partisans. Et les personnes qui étaient là, il y avait une cinquantaine de résidents, se sont mis à chanter le chant des partisans. Toutes les paroles, hein, ils connaissent les paroles jusqu'au bout. Et ça, c'était un grand moment.
Une anecdote, oui, c'est déjà une première anecdote, concernant mon film « Jambar Semben Lassoumi », bon, sachant que « Jambar », ça veut dire « le guerrier », quoi, le combattant. Bon. Et ça vient d'ailleurs de Jambar, donc Jambar, le célèbre corsaire, qui n'est jamais allé sur les côtes africaines, encore moins sénégalaises. Mais voilà, là, il avait une réputation telle que c'est devenu un patronyme en Wolof. Voilà. Et donc, une fois, j'étais au festival du film, j'avais pas encore décidé de travailler sur le projet de Semben, puisque Semben était encore vivant, c'était peut-être 2-3 ans avant sa mort, et j'étais avec un copain réalisateur, Cheikh Doucouré, hein, celui qui a fait Ballon d'Or, et on nous demande, enfin, plus à Cheikh, on lui demande si le midi, il veut pas manger avec Semben, parce que bon, il y avait personne de l'organisation qui avait le temps, du temps à passer le midi avec Semben, ils étaient tous pris. Et on nous propose ça, moi je décline en disant non, moi je connais quelques-uns de ses livres, et c'est vrai qu'à l'époque j'avais peut-être vu un ou deux de ses films, quand j'étais assez jeune, notre mère nous avait emmenés, enfin bon, et je me suis dit non, je vais pas manger avec lui parce que il va m'emmerder, je connais rien à sa cinématographie, un peu ses livres, c'est tout, bon. Et donc j'ai passé le repas avec mon camarade Doucouré et Semben, et j'ai rien dit. Je me suis contenté d'écouter en me disant si jamais je la ramène, il va m'écraser tout de suite, quoi. Voilà. Et donc c'était le premier contact et le seul en fait que j'ai eu avec Semben. Donc c'est assez paradoxal. Et quelques années après, voilà, j'ai fait un film le concernant, quoi. Et donc l'autre anecdote, hein, donc à couper ou pas parce que ça peut faire un peu un truc de frimeur, mais c'est que j'ai eu l'occasion de présenter mon film donc sur Semben au festival du film panafricain de Los Angeles, et donc organisé entre autres par Danny Glover. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois, grâce au festival du film d'Amiens, d'interviewer Danny Glover, donc on se connaissait de vue, quoi. Enfin, mon visage lui disait quelque chose. Et il savait que j'étais dans le temps sur un projet sur Semben. Donc là, le film est sélectionné, j'arrive un peu à la bourre ce jour-là, c'est le premier jour, pour un déjeuner avec les réalisateurs qui présentaient leur film. Donc on devait être à peu près 200. Glover, en fait, commence à demander à chacun de prendre la parole pour présenter son projet. Bon, et son film, pardon. Et vient mon tour, je m'exécute comme tout le monde. Et là, Glover reprend la parole en disant « Ce film est important, ce cinéaste est important, il faut absolument le voir. » Et moi, j'étais très gêné parce que comme il y avait une compétition, je me suis dit « Là, je vais mettre tout le monde à dos. » Et puis voilà, mais j'étais quand même, voilà, tout ça pour dire, j'étais quand même content et fier de me retrouver à Los Angeles, sur Sunset Boulevard, à présenter un film qui s'est fait dans des conditions matérielles assez fauchées, quoi, en fait. Ouais. Donc, tout est possible.
Un soir, ma mère me réveille et me dit « On entend des bruits de canon. » C'était les troupes à Rommel qui arrivaient sur Port-Bail. Ça remuait à Port-Bail, hein.
Français, enfin voici l'heure tant attendue.
Leclerc débarque le 1er août, mais quand il débarque, il est accueilli par personne. Les autorités américaines ne sont pas là. Et ça, évidemment, ça fait mauvais effet. Donc on refait le débarquement.
Il dit comme ça, mais viens avec nous.
C'est quand même pas si évident de se dire, je vois la division, deuxième division blindée qui a débarqué ici, je vais m'engager.
Il y avait une dame qui vendait des fromages. Elle m'a donné 2 camemberts. Et je suis parti avec mes 2 camemberts faire la guerre. J'ai triché, parce que j'avais pas 18 ans, j'avais 17 ans. Il me tombe un obus juste à côté de moi. J'ai été évacué.
Les hommes sont harassés de fatigue. parce que Leclerc les talonne sans arrêt, foncer, 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 foncer.
On avait tout juste le temps d'aller aux toilettes. C'était merveilleux. C'est incroyable. Incroyable. Des choses comme ça, ça vous arrive qu'une fois dans votre vie. Ah, c'est toute une histoire. C'est pour ça que je disais toujours, j'ai de quoi faire un film.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine!